Merci Madame la Présidente. Je voudrais me joindre aux collègues rapporteurs pour remercier la délégation du Japon de sa présence parmi nous et poursuivre dans cet esprit de dialogue constructif. Je voudrais revenir sur un point clé qui est la réponse qui figure au paragraphe 12 à notre question 7, c'est-à-dire la question de la définition des disparitions forcées. Vous-même, Excellence, oralement, vous avez redit qu'il n'y a pas de disparition forcée au sens de l'article 2. Mais comme l'ont très bien dit les rapporteurs, dans la législation japonaise actuelle, il n'y a pas d'incrimination de la disparition forcée en tant que telle, as such. Donc, il faut vraiment lire l'article 2 et l'article 4. Dans les annexes que vous présentez, il y a toute une série d'incriminations, kidnapping, enlèvement d'enfants, etc. Mais il manque à la fois l'élément d'imputation à l'État et puis la question du déni de la vérité. Donc je crois que pour avoir une vision globale de la définition, il faut vraiment partir de l'article 2, et si j'ose dire, c'est la valeur ajoutée de la Convention d'avoir cette définition unique de la disparition forcée, ce qui a toute une série de conséquences s'agissant des auteurs du crime de disparition forcée, tous ceux qui participent ou qui sont complices d'une disparition forcée, comme le précise l'article 6, paragraphe C. Je ne veux pas être trop long, mais ça a aussi des conséquences sur la portée qu'un État peut donner à l'article 3. Et ça a des conséquences également sur tout ce qui concerne le régime juridique, avec un point que je voudrais souligner pour finir, c'est la portée extraterritoriale de la Convention qui est visée à l'article 9 avec une sorte de compétence universelle. Donc je crois que si vous pouvez répondre aujourd'hui à ces questions, ça serait très utile pour le comité. Et si le Japon pouvait avoir dans sa législation un corpus complet et cohérent, ça serait également très utile. Merci, Excellence.